Alors, au point où nous en sommes, Georges Comtesse souhaite faire une intervention. Donc, qu'il la fasse, puisque je suppose qu'elle sera adaptée à peu près au point où nous en sommes, et je continuerai après. Voilà.
Que la visibilité puisse s'étendre à toute la société, au lieu de se concentrer dans un centre. Ce que l'on veut, c'est donc une visibilité élargie, générale, étendue. Aussi, dit Foucault, dès avant la Révolution française, se manifeste une haine, une méfiance critique pour le château, pour le couvent, pour l'hôpital, pour la maison de force. Et cette haine est la même chose que la peur. La peur de quoi? La peur de ce que Foucault appelle l'espace sombre. C'est-à-dire la peur des espaces nocturnes, ou ce qu'il appelle encore les fragments de nuit. Ce qui fait peur, c'est dit Foucault, l'obscurité et le silence des espaces qui constituent autant d'obstacles au rayonnement de la lumière, à l'entière visibilité des gens, des choses ou des vérités. On a peur des espaces sombres, des chambres noires, car on hait l'obscurité et le silence. Aussi, deux directions à partir de là. La critique n'est pas simplement une critique, elle veut littéralement dissoudre, supprimer, éliminer tous les espaces sombres, car dans ces espaces, en eux, circule justement l'insupportable, c'est-à-dire le langage de l'obscurité, le langage du silence, du mal, un langage qui s'écarte de la parole lumineuse qui demeure, malgré tout, le modèle. Dans ces espaces, et Foucault donne au moins 5 ou 6 exemples, les tyrans et les prêtres fourdissent leurs sombres complots, l'arbitraire politique se prononce, les superstitions religieuses se renforcent, les illusions de l'ignorance se confirment et se développent, les écoles du vice et du crime s'élargissent, les corps s'abîment, les épidémies se propagent. Le siècle des Lumières veut donc dissoudre les espaces sombres qui le hantent, c'est-à-dire que l'on veut à tout prix non seulement éliminer les espaces sombres, mais surtout, surtout, on veut effacer les zones d'ombre, d'obscurité, les zones d'opacité de l'homme. On veut rendre l'homme aussi transparent que la société. On veut rendre, comme on dit, l'homme et la société à leur visibilité transparente, ou à leur transparence essentielle. Un homme, on veut donc un homme sans zone obscure, une société sans espace sombre. Les espaces sombres de la société actualisent les zones d'ombre, l'opacité de l'homme, intensifient l'obscurité silencieuse d'une puissance de nuit en tant que pouvoir de faire le mal. Et c'est le deuxième point, le rapport entre le pouvoir et la violence. Il ne faut pas en effet que la différence de vie, c'est-à-dire la différence de l'identité de la parole et de la lumière, se déface ou s'annule pour laisser revenir la puissance du mal comme puissance d'une violence mobile. Il ne faut pas que la différence de vie s'annule pour laisser revenir le silence du temps ou de l'éternité. C'est pour conjurer justement le rapport entre violence et pouvoir, c'est pour conjurer le mouvement de la violence mobile, que le pouvoir s'exerce. Le pouvoir n'est pas la violence, mais parce qu'il ne cesse de la conjurer, de la contenir, de la retenir, de l'empêcher, de l'inhiber, de la freiner, de briser à tout prix le mouvement de sa force. Et pour empêcher le mouvement de sa force, de la force réservée, de la violence d'abord immobile et qui se parle, trouve son langage dans l'espace sombre, justement, pour empêcher le mouvement de la force, comme force du temps, qui se prépare dans l'espace sombre, la voie du contrôle de l'ordre donné est secondaire et d'abord inefficace. Il faut d'abord, et avant tout, et avant, justement, la voie du contrôle, il faut avant cette voie imposer le regard de la surveillance. Le regard de la surveillance qui va donc résorber l'opacité de l'homme, restituer sa visibilité ou sa transparence, c'est-à-dire couper la force du temps de son mouvement, dominer ou maîtriser la force en inhibant son mouvement. C'est pourquoi Bentham, et ça c'est le point essentiel, Bentham écrit qu'être mis, placé sous le regard de la surveillance, dit-il, c'est perdre la puissance de faire le mal et presque, dit-il, la pensée de le vouloir. Lien essentiel entre regard de surveillance et inhibition du mouvement de la force. Le pouvoir du regard est ce qui empêche le mouvement de la force, ce qui maîtrise ou domine la force, ce qui la convertit, qui la convertit en une intention dont on espère l'épuisement, en une volonté qui s'épuise et qui pourra peut-être aller jusqu'à la bonne volonté de l'être rationnel. C'est par cet effet de pouvoir que la visibilité s'assure. Ou encore, par la visibilité, le pouvoir s'assure de son effet. L'obsession de Bentham, comme dit Foucault, son obsession, c'est donc un regard omni-regardant. Et c'est à partir de cette obsession de Bentham, qu'il rumine la visibilité. Il pense une visibilité, comme dit Foucault, organisée entièrement autour d'un regard dominateur et surveillant. Ce n'est donc plus la voie de la domination et pas encore la voie du contrôle. C'est le regard dominateur de la surveillance, provisoirement disjoint de la voie du contrôle ou des discours. Le regard dominateur de la surveillance, qui veut produire une visibilité nouvelle, une visibilité de conjuration de la violence mobile, une visibilité d'inhibition du mouvement de la force, une visibilité que l'on pourrait appeler une visibilité d'immobilisation, cette obsession du regard précède et institue l'invention du dispositif panoptique comme technologie de pouvoir. L'obsession du regard de conjuration va susciter, autrement dit, son effectuation technologique, va passer dans le dispositif ou le procédé optique, et c'est par ce dispositif que le regard qui précède le panoptique va à ce moment-là s'inscrire dans l'espace social, que l'institution va à ce moment-là devenir ce que Foucault appelle l'effet et le support d'un nouveau type de regard. Le dispositif panoptique, c'est donc la réponse technologique au problème du pouvoir omni-regardant, au pouvoir du regard qui surveille l'immobilisation du mouvement de la force. C'est un dispositif, comme dit Foucault, d'assujettissement par mise en lumière. Un dispositif que j'appellerais un dispositif de rapport de la visibilité et de la lumière, un dispositif qui constitue donc le foyer d'exercice du pouvoir, est en même temps le lieu d'enregistrement d'un savoir. Troisième point, rapport entre pouvoir et multiplicité. Toute la stratégie du dispositif panoptique devient à ce moment-là la stratégie de ce que Foucault appelle le regard centralisé, c'est-à-dire le regard surveillant de la tour centrale, ce regard qui veut l'entière visibilité des corps, des individus, des gestes, des activités. Et justement, cette stratégie est une stratégie d'immobilisation de la force du mouvement. C'est par le dispositif optique d'exercice du pouvoir que la puissance de violence mobile est conjurée. C'est pourquoi couper le mouvement de sa force, immobiliser, c'est aussi isoler les individus, les séparer les uns des autres, et sérialiser. Le dispositif optique de conjuration immobilise et sépare les individus. Le principe du regard de la surveillance, qui assure une surveillance, comme dit Foucault, à la fois globale et individualisante, est donc maintenant non plus le principe de la visibilité comme le principe du pouvoir de souveraineté classique, mais avec un nouveau pouvoir qui se monte et une nouvelle technologie du pouvoir, ça devient donc le principe. Le principe de ce nouveau pouvoir, c'est sombre, de l'espace sombre effrayant, on passe dans un espace clos, isolé, séparé, et dans cet espace clos, c'est-à-dire dans cette cellule où on enferme un condamné, un fou, un malade, un ouvrier, un écolier, la lumière revient à travers, justement, la visibilité isolante, sérielle, nouvelle. Chacun isolé des autres, séparé d'eux, sans contact avec eux, redevient visible par le regard de la surveillance. Et la hantise à ce moment-là, la hantise de ce regard centralisé de pouvoir, ce n'est pas du tout de s'ouvrir à une multiplicité. Pas du tout. C'est au contraire, et ça c'est un point essentiel, de concentrer la multiplicité dans l'exercice même du pouvoir. C'est pourquoi il fallait, comme dit Foucault, à la fin du XVIIIe siècle, où les effets de pouvoir circulent jusqu'aux gestes, jusqu'aux activités quotidiennes, jusqu'au corps et jusqu'aux attributs, il fallait, comme il dit, que le pouvoir, je terminerai là-dessus, que le pouvoir même, avec une multiplicité d'hommes à régir, soit aussi efficace que s'il s'exerçait sur un seul.
Parfait. Parfait. En effet, tu as dégagé là une différence dans les régimes de visibilité du XVIIe et du XVIIIe. Alors c'est compliqué cette histoire parce qu'il faudra voir, en effet, on ne l'a pas fait ça encore, il faudra voir au niveau de la peinture. Il faut maintenir en tout cas le principe qu'on a vu déjà au niveau des énoncés. Je veux dire, il ne faut surtout pas réintroduire un principe de progrès, de perfectionnement. Une époque en perfectionne pas une autre. Je veux dire, il n'y a pas de régime de visibilité qui soit meilleur qu'un autre. Faut pas croire, là, certains d'entre vous auraient pu comprendre que, par exemple, au XVIIIe siècle, les ombres sont chassées, c'est pas ce que voulait dire évidemment Comtesse. Il y a une répartition d'ombre et de lumière, le statut de l'ombre dans chaque formation historique est évidemment différent. C'est des régimes qualitatifs de visibilité tout à fait différents. Alors ce qui est très important, si vous voulez, dans au point où nous en sommes, c'est, il me semble, l'idée que le pouvoir, c'est bien ce qui va faire voir et faire parler. Comme si les rapports de pouvoir nous convoquaient à voir et à parler. Mais eux-mêmes, les rapports de pouvoir, on va voir en quel sens, ils sont muets et aveugles. C'est très curieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils font voir et ils font parler, bien que, en eux-mêmes, si le « en eux-mêmes » a un sens, ils soient muets et aveugles. Mais enfin, ça venait très bien, cette intervention, ça. Bon. Alors, en effet, où est-ce que nous en étions? C'était notre première séance, la dernière fois, sur ce nouvel élément qui n'était plus l'élément du savoir, mais l'élément du pouvoir. Et j'ai commencé une partie que j'avais presque achevée, qu'on pourrait intituler « Les questions de principe ». Isoler, là, des questions de principe, c'est déjà arbitraire, mais c'était pour la clarté. Et ces questions de principe, cette discussion autour des principes, comprenez bien, il s'agit moins de principes explicites que vous trouveriez dans telle ou telle théorie du pouvoir. Il s'agit plutôt de postulats implicites qui parcourent, selon Foucault, qui parcourt l'ensemble des théories du pouvoir, aussi bien les théories bourgeoises du pouvoir que la théorie marxiste. Si bien qu'il ne faut pas les prendre comme des thèses à ces principes, il faut les prendre plutôt comme des postulats que Foucault éprouve le besoin de mettre en question. Des postulats implicites qui sont sous-jacents à la plupart des théories du pouvoir. Et ces postulats que Foucault prend à partie, on en a vu cinq la dernière fois. C'était donc le postulat de la propriété, selon lequel le pouvoir appartiendrait à une classe, par exemple, ou à un équivalent de classe, mettons à une classe. Est-ce que c'est marxiste ? Non, c'est pas marxiste. C'est pas marxiste. Il y a longtemps qu'un marxiste, Plekhanov, a montré que cette conception du pouvoir comme propriété d'une classe apparaît typiquement dans les conceptions bourgeoises du pouvoir, et notamment chez Guizot au XIXe siècle. La classe bourgeoise comme propriétaire d'un pouvoir de droit. Bon, c'est donc pas spécialement marxiste. Deuxième postulat, le premier, c'est donc, pour une fois, le pouvoir comme propriété d'une classe, ou par exemple d'une classe. Deuxième postulat, postulat de la localisation, le pouvoir localisé dans l'appareil d'État. Le troisième postulat, c'est postulat de la subordination. Le pouvoir subordonné à un mode de production comme infrastructure. Quatrième postulat, postulat de l'essence ou de l'attribut. Le pouvoir serait l'attribut des dominants. Par opposition aux dominés. Cinquième postulat, postulat de la modalité. Le pouvoir agirait par violence ou par idéologie. Et il nous restait un dernier postulat dont je disais qu'il était très important parce que sans doute c'est un des points les plus originaux de Foucault au niveau de cette discussion des principes. C'est que si vous réfléchissez sur les cinq postulats dénoncés, sur quoi porte la dénonciation ? Sur quoi porte la dénonciation ? C'est que pour comprendre ce qu'est le pouvoir, il ne faut pas partir, il ne faut pas se donner d'abord ce qu'on pourrait appeler de grosses entités. Ou si vous préférez, employant un mot plus technique, des entités molaires. Pourquoi j'introduis là les entités molaires ? Précisément parce que je me soucie de commenter microphysique du pouvoir. Foucault nous annonce une microphysique du pouvoir. Ou si vous préférez, mettons une conception moléculaire du pouvoir. Je dis donc tout naturellement qu'il y a, dans une telle conception, une dénonciation des grandes entités molaires que la plupart des théories se donnent toutes faites dans leur conception du pouvoir. Et si l'on en reste à des entités molaires, il va de soi que l'on pense le pouvoir en termes d'opposition. Les grandes entités s'organisent suivant des oppositions molaires. Ces oppositions, ce sera quoi ? Dans tous les sens, si vous prenez nos postulats, infrastructure, suprastructure, dominant, dominé, opposition de classe, etc. Qu'est-ce que veut faire Foucault ? Il va de soi qu'une microphysique prétend dépasser les oppositions molaires vers quoi ? Vers des complémentarités moléculaires. Seulement, ça va nous poser un problème. Je vais laisser ça le point difficile. Je veux dire, le point auquel il faut faire attention dès maintenant. En d'autres termes, il s'agit de passer d'une dimension macroscopique à une dimension, en gros, microscopique. Il s'agit de passer du macro au micro. Microphysique du pouvoir. Alors, quelle est la différence entre le macro et le micro ? Évidemment, s'il s'agit d'une simple miniaturisation, ça n'a aucun intérêt. S'il s'agit de dire qu'il faut penser en petit ce que nous avions l'habitude de penser en grand, aucun intérêt. S'il s'agit de nous dire que dans l'état, il y a 1000 petits états, pas d'intérêt. Il faut donc que le passage du macro au micro ne soit pas une miniaturisation. Voyez, volonté de savoir, page 132, où Foucault dit très hâtivement, très vite, c'est 132, oui, 132, il dit oui, le micro, c'est pas une différence de taille. Donc c'est une différence de nature. Alors, prenez la proposition macrophysique suivante. Le pouvoir appartient à des dominants et s'exerce sur des dominés. On l'a vu, c'est une proposition macrophysique. Prenez la proposition microphysique. Le pouvoir est un rapport qui passe par les dominés, non moins que par les dominants. Je dis, pour que vous compreniez bien le problème, que dans les deux propositions, dominant et dominé ne peuvent pas avoir le même sens. Même si j'emploie le même mot, les termes ont changé quand je passe du macro au micro. Quand je passe de la macrophysique à la microphysique. Sinon, ça n'aurait pas de sens. D'où l'importance. Vous comprenez ça, c'est très obscur pour le moment, enfin peut-être, parce que c'est abstrait. Parce que c'est une tâche pour nous. Il faudra surtout qu'on ne se laisse pas prendre au piège d'une simple miniaturisation. Vous comprenez, il ne s'agit pas simplement de essaimer. Il ne s'agit pas, encore une fois, de multiplier des petits états. Il faut vraiment qu'il y ait différence de nature entre le domaine microphysique et le domaine macrophysique. Et c'est ce qu'on voit particulièrement alors au niveau du dernier postulat que j'avais laissé de côté la dernière fois, qui était le postulat de la légalité. Car dans la plupart des théories du pouvoir, le pouvoir est pensé en fonction de la loi comme instance molaire. Et dès lors, l'opposition molaire correspondante, c'est loi-illégalité. De même qu'il y a une opposition molaire dominant-dominée, il y a une opposition molaire, une grosse opposition. Un rapport d'exclusion. Loi, illégalité. Et que nous pensions le pouvoir à partir de la loi, c'est sans doute le signe que la loi est une excellente notion molaire pour penser le pouvoir. Depuis quand? Selon Foucault, ce serait même l'acte fondamental de la monarchie. Bizarrement, ce n'est pas la République. La République ne fera que confirmer. C'est la monarchie qui introduit la forme de la loi, comment? Dans sa réaction contre la féodalité. Le roi va s'élever et va être autre chose qu'un suzerain, dans la mesure où il se réclame du droit et de la loi comme forme du droit. Si bien que la République, avec la Révolution de 89, pourra reprocher au roi et à la monarchie de ne pas avoir accompli ce programme de la loi, mais maintiendra l'idée de la loi et de l'état de droit. L'idée de l'état de droit est monarchique avant d'être républicaine, et à cet égard la République enchaîne avec la monarchie. Il appartient à la monarchie européenne au XVIIe siècle, puis à la République, de penser le pouvoir en termes de loi et de fonder la notion d'un état de droit. Dès lors, la loi comme instance molaire est définie au niveau d'une macrophysique comme ce qui supprime ou ce qui interdit l'illégalité. Opposition loi-illégalité. Qu'est-ce que c'est pour Foucault ? Faire une microphysique du pouvoir, comme toujours. C'est découvrir quelque chose là-dessous, à savoir, sous l'instance macroscopique et l'opposition molaire, il va falloir découvrir quelque chose qui sera quoi ? Un rapport différentiel, ou si vous préférez, une complémentarité moléculaire. Or, il va de soi que lorsque je passe de l'opposition molaire à la complémentarité moléculaire, lorsque je passe de la macro-entité au rapport différentiel, ce ne sera pas les mêmes termes, même si c'est les mêmes mots. C'est la condition sur laquelle une microphysique réussit ou réussit pas. Éviter la miniaturisation. Qu'est-ce qu'il va substituer à la grosse opposition loi-illégalité? Il va substituer une complémentarité typiquement moléculaire, loi. Et comme s'il pressentait le danger, à savoir qu'il emploie le même mot en deux sens, tantôt au niveau macro, tantôt au niveau micro, il va introduire là, explicitement, un autre nom. Non plus illégalité, mais illégalisme. Il va dire que, à l'opposition, à la grosse opposition, loi-illégalité, il faut substituer une fine complémentarité, une micro-complémentarité, loi illégalisme. Et l'illégalisme, concept très nouveau, il me semble, fait l'objet d'un chapitre de surveiller et punir, chapitre très intéressant, qui consiste à nous dire quoi ? Ben que précisément, au niveau microphysique, on voit bien que la loi ne s'oppose pas à l'illégalité. Loin de s'opposer à l'illégalité, elle est comme une résultante des illégalismes. Comprenez que c'est bien là où il fait de la microphysique, parce que si je dis la loi, c'est la résultante des illégalismes dans une formation sociale, on a tout de suite envie de me dire, de m'objecter, mais ça ne veut rien dire. L'illégalisme, même si on emploie ce mot bizarre, illégalisme plutôt que illégalité, l'illégalisme suppose déjà la loi. Comment la loi serait-elle la résultante de quelque chose qui la suppose ? Eh bien non. C'est vrai que l'illégalité suppose déjà la loi au niveau macrophysique. Au niveau microphysique, pas du tout. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ben, il veut dire que l'illégalisme n'est pas un accident par rapport à la loi. L'illégalisme, ce n'est pas du tout un accident. Si la loi était faite pour interdire, ce serait quand même curieux qu'elle échoue à ce point-là. C'est une remarque toute simple, ben oui, c'est vrai. Si la loi était faite pour interdire, quand même, ça laisserait rêveur cette histoire de la loi qui ne serait que l'histoire éternelle de son échec. Ça nous donne une idée que peut-être, après tout, la loi, elle n'est pas exactement faite pour interdire. Et pourtant, macrophysiquement, elle est bien faite pour interdire. Mais dans le micro, est-ce qu'elle est faite pour interdire ? Et alors, vous voyez, si je dis dans le macro, elle est faite pour interdire, et dans le micro, elle n'est pas faite pour interdire, mais pour autre chose, ce n'est pas tout à fait la même loi. Il faut que j'ai changé de terme en changeant de domaine. Ce qui revient à dire quoi, c'est continuons l'analogie avec la physique. C'est évident qu'un corpuscule ou même une molécule, c'est pas un corps miniaturisé. C'est un autre monde, c'est un autre élément. Vous n'avez pas les mêmes éléments, vous n'avez pas le même type de terme en microphysique et en macrophysique. Si vous concevez l'atome comme une petite chose ou comme une chose en petit, c'est la seule manière de ne pas comprendre un atome. Alors, peut-être que, en effet, la loi, elle n'est pas spécialement faite pour interdire. Elle serait faite pour quoi ? Elle ne serait pas faite pour empêcher tel ou tel comportement. S'il s'agissait d'empêcher les crimes, les vols, les escroqueries. Je crois qu'il faudrait chercher d'autres moyens. Parce que la loi n'a jamais rien empêché. Alors, elle n'est pas faite. Supposons qu'elle ne soit pas faite pour empêcher. Elle serait faite pour quoi ? Pour différencier les manières de la tourner. D'une certaine manière, vous pouvez dire, tout le monde le sait, ce que nous apprend Foucault. Oui, oui. Que la loi soit inséparable de la manière de la tourner. Que la loi, même avec une grande complaisance, nous indique la manière de la tourner. Tout le monde le sait. Dès qu'on a des affaires, on va voir un avocat pour apprendre les manières de tourner la loi. Et la manière de tourner la loi, elles ne sont pas hors la loi, elles sont dans la loi. Prenez les lois sur les sociétés commerciales. C'est formidable. Qu'est-ce que ça veut dire, nous parler de la loi ? La loi, en effet, c'est une fiction, mais une bonne fiction. C'est peut-être une fiction qui renvoie précisément au régime monarchique et républicain. Qui renvoie d'abord au régime monarchique et à plus forte raison au régime républicain qui va dégager la pure forme de la loi. Et ça aboutira avec le contrat social de Rousseau. La loi va du tout à tous. Or, chacun sait que c'est pas comme ça. Chacun sait qu'il n'y a pas la loi. Il y a les lois. Et il y a toujours une loi qui me donne la possibilité de tourner une autre loi. La multiplicité des lois est en même temps la manière dont, loin d'empêcher un comportement, elle dit dans quelles conditions un comportement est permis. Si vous êtes une société, comment ne pas payer vos dettes ? Pour savoir comment ne pas payer vos dettes, la loi étant de payer ses dettes. Pour savoir comment ne pas payer vos dettes si vous êtes une société, c'est l'enfance de l'art. Un des moyens les plus simples étant de vous mettre en liquidation judiciaire. Alors, il y a tout un système de lois, et dans la pluralité des lois, y compris quoi ? On voit très bien qu'il s'agit beaucoup moins d'interdire une action. Tu ne tueras pas. Ah oui, mais il y a la légitime défense. La légitime défense me dit à quelles conditions je peux légalement tuer. Bon. Tout ça, c'est des grosses évidences. Personne ne s'en était... Tout le monde le sait. Personne ne s'en était servi comme Foucault s'en sert. Je dirais, c'est toujours comme ça, les idées philosophiques. Elles s'appuient sur de grosses évidences pour en tirer quelque chose d'improbable ou d'inattendu. Je vous en supplie, vous fumez pas. Aujourd'hui, vous fumez pas. Vous sortez si vous avez envie de fumer un autre. Et vous revenez quand vous... Ouais. Donc, il s'agit de différencier les manières de la tourner, la loi. Et vous ne pourrez pas définir la loi, sauf au niveau microscopique... au niveau microphysique, au niveau micrologique, sauf comme une gestion des illégalismes, une répartition des illégalismes dans un champ social. Et comme dit Foucault, il y a des illégalismes qui sont tolérés. Tolérés comme quoi ? Compensation. Pour les classes dominées. Il y a des illégalismes qui sont permis comme privilège de la classe dominante. Il y a toute une échelle d'illégalisme. Chacun sait que ce qui est interdit par la loi est toléré. Et tolérer quoi ? Simplement tolérer dans telle condition et à l'ombre d'une autre loi. Si bien que c'est en fonction des illégalismes qui caractérisent un champ social que la loi pourra être définie. À savoir, ce qui change radicalement d'un champ social à un autre, c'est les illégalismes et la répartition des illégalismes. La loi, ce n'est que cette répartition même. Qu'est-ce qui explique, par exemple, l'opposition radicale de la Vendée à la Révolution française ? C'est pas simplement que la Vendée est beaucoup plus réactionnaire, plus pieuse que d'autres régions de la France. C'est pas simplement ça. C'est que le droit monarchique faisait bénéficier les paysans et notamment les paysans de l'Ouest d'un certain nombre de privilèges, d'un certain nombre d'exceptions à la loi. que la révolution ne peut plus leur consentir. C'est-à-dire ce qui était illégalisme toléré par la monarchie cesse d'être tolérable par la République. Bon. Et Foucault montre très bien comment, du XVIIe au XVIIIe siècle, c'est la nature des illégalismes qui change. Dès lors, la loi changera comme répartition des illégalismes en illégalisme défendu, toléré, admis, etc. En effet, la montée des nouveaux illégalismes vient de quoi ? Changement dans la nature des crimes, à savoir de plus en plus de crimes contre la propriété. Montée d'un prolétariat urbain et politisation avant et pendant la Révolution. Ça va définir toutes sortes de nouveaux illégalismes et un nouveau type de...